Professeur Bouvenot, bonjour.
Bonjour, monsieur Poli.
Professeur Bouvenot, aujourd'hui, nous allons parler d'arthrose.
C'est un vaste sujet. Le nombre d'arthrosiques en France est de plusieurs millions, comme tout le monde le sait. C'est donc un sujet qui concerne une grande partie de la population et, à partir d'un certain âge, la presque totalité de la population. Bien que l'arthrose soit à différencier du vieillissement articulaire. L'arthrose est un processus dégénératif et le vieillissement ne suffit pas à l'expliquer.
Professeur, alors je suppose que le diagnostic est assez simple à poser ?
Il a l'air assez simple. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une patiente ou d'un patient qui vient consulter pour une douleur articulaire. Mais cette douleur est mécanique. C'est une douleur de fonction, c'est une douleur d'effort. Ça n'est pas une douleur de repos ni une douleur nocturne, tout au moins au début. Et au début, c'est une douleur de fin de journée, de fatigue. À cette douleur peut s'associer déjà une petite impotence fonctionnelle, autrement dit une gêne articulaire. Alors, on fait des radios, et ces radios peuvent montrer différents tableaux d'imagerie. Au tout début, on ne voit pas des signes évidents. Mais avec l'évolution, on finit par voir les signes qui normalement sont présents quand le malade souffre, c'est-à-dire un pincement de l'articulation, qui est en général localisé, une condensation de l'os sous-chondral, et déjà de petits ostéophytes, de petites excroissances osseuses qui pointent. On fait un bilan biologique qui confirme l'idée que l'on a qu'il ne s'agit pas d'un rhumatisme inflammatoire. En effet, sauf coïncidence exceptionnelle, la vitesse de sédimentation est normale et la protéine C réactive est également normale. Et puis, la localisation de l'articulation douloureuse est intéressante à considérer pour ce diagnostic positif. Et puis, les antécédents du patient ou son morphotype, son mode de vie. Tout cela facilite grandement le diagnostic qui est finalement assez simple.
Professeur, au niveau de la prise en charge de l'arthrose en cabinet médical, qu'a-t-il à dire ?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire, monsieur Poli, sur cette prise en charge. La prise en charge d'un arthrosique, c'est d'abord une prise en charge médicamenteuse, mais le moins possible. Et ça n'est pas qu'une prise en charge médicamenteuse. Mais si vous le voulez, j'aimerais qu'on parle un peu de médicaments et arthrose, parce que si les médicaments ne font pas des merveilles dans la prise en charge des arthrosiques, ils peuvent être très délétères. Alors comment traiter un arthrosique qui souffre ? Bien, on lui donne des antalgiques. On lui donne des antalgiques à la demande, des antalgiques au long cours en général, tout le monde les connaît. La plupart du temps, le palier 1 de l'OMS, autrement dit le paracétamol, suffit. On est amené quelquefois à donner du palier 2, c'est-à-dire, en général, une association paracétamol et opiacés faibles. Il est exceptionnel qu'on ait recours à des opiacés majeurs. Si on a recours à des opiacés majeurs, c'est que quelque chose ne va pas dans notre diagnostic ou que l'arthrose est secondaire à tel ou tel phénomène et qu'il est peut-être préférable de ne plus faire de médicaments et de voir d'autres moyens thérapeutiques. Donc d'abord, des antalgiques simples, parce que ces antalgiques simples sont les moins dangereux, sont les moins toxiques et qu'un arthrosique, jusqu'à l'intervention chirurgicale salvatrice, va souffrir pendant des années. On est amené, mais il faut être très prudent, à lui donner, parfois, à l'occasion des poussées inflammatoires et congestives qui se produisent immanquablement, mais qui ne sont pas si fréquentes et qui sont bien individualisées dans le temps, on est amené à lui prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, il y a un certain nombre de règles en faveur des patients, c'est les AINS uniquement lors des poussées congestives. Un AINS est aussi un antalgique, mais s'il n'y a pas de poussée congestive, autrement dit de petites synovites d'arthrose, il n'y a pas lieu de donner un anti-inflammatoire. Un antalgique doit suffire. Et d'ailleurs, quand on donne des AINS à nos patients arthrosiques, en dehors des poussées congestives, ils vont mieux, mais le danger est plus grand avec eux qu'avec un simple antalgique. Donc des anti-inflammatoires, donc le moins longtemps possible, et uniquement pendant la durée de la poussée congestive, qui s'accompagne, quelquefois c'est parfaitement visible, d'un épanchement synovial qu'il est alors souhaitable de ponctionner. Car dans cet épanchement, il y a des substances qui sont délétères pour le cartilage articulaire. Mais j'en reviens aux AINS, le moins longtemps possible, en faisant attention à la dose, en ne dépassant pas la dose maximale tolérée. Et bien entendu, en associant cet anti-inflammatoire non stéroïdien à un protecteur gastrique lorsque le patient présente des facteurs de risque digestif. Une grande banalité. Après 65 ans, les sujets ont, par définition, un facteur de risque digestif. Et donc, il est logique de co-prescrire un inhibiteur de la pompe à protons. Mais, premièrement, cet IPP ne protège pas à 100% nos patients de complications digestives, ulcérations, ulcères, voire complications, hémorragie, perforation. Donc, ça les protège, mais pas à 100%. Deuxième idée, ils ne sont pas immédiatement efficaces dans la minute, ce qui fait qu'ils ne sont même pas utiles lorsque les cures sont très courtes. Et finalement, une coprescription d'IPP chez un patient à risque ne se conçoit que lorsqu'on pense que le traitement anti-inflammatoire non stéroïdien va durer un certain nombre de semaines. En général, ça ne dépasse pas quelques semaines. Parmi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il en est de meilleurs que d'autres, il faut le savoir, en fonction du terrain que représente le patient. Et je crois qu'il faut que nos amis prescripteurs soient conscients que les anti-inflammatoires non stéroïdiens appartenant à la sous-classe des oxycam sont des produits qu'il ne faut pas donner en première intention chez des malades arthrosiques qui ont déjà un certain âge, parce que après 65 ans, nous le savons, la fonction rénale n'est pas optimale. Et il n'est donc pas souhaitable de les prescrire en première intention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prescrire, mais privilégions d'autres AINS lorsque nous voulons traiter nos arthrosiques et en particulier quand ils sont âgés. Voilà pour, je dirais, les traitements symptomatiques, antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et nous avons à notre disposition une catégorie de médicaments qui sont un petit peu antalgiques, que l'on appelle probablement par un abus de langage les traitements de fond de l'arthrose, probablement par analogie avec, à l'époque, l'arrivée des traitements de fond des rhumatismes inflammatoires, avant les vraies biothérapies d'aujourd'hui. Ces produits, tout le monde les connaît, qu'il s'agisse de l'extrait de soja et d'avocat, qu'il s'agisse de chondroïtine sulfate, qu'il s'agisse de diacérine, qu'il s'agisse de glucosamine. Ce sont des produits dont l'effet symptomatique est extrêmement modeste, mais qui peuvent rendre service en dehors des cures courtes d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. On n'attend pas de ces médicaments des miracles et on note que tous les patients n'y sont pas répondeurs. Il n'y a pas de raison de s'en priver, ou tout au moins d'en priver nos patients, mais j'ajouterai en contrepartie qu'ils ne sont pas très très efficaces. Et puis il ne faut pas oublier qu'une arthrose, c'est souvent une arthrose d'une articulation portante, en tout cas une articulation d'un membre, et qu'elle est isolée la plupart du temps, et qu'il est peut-être préférable d'envisager un traitement local plutôt que systématiquement un traitement par voie générale. C'est la raison pour laquelle on fait assez souvent, en particulier dans le cadre des grosses articulations, des infiltrations d'un dérivé cortisonique par exemple, en sachant qu'on n'aime pas en faire plus de 3 par an. Il faut donc garder ces infiltrations lors des poussées inflammatoires importantes. Trivialement, je dirais qu'il faut garder nos munitions pour les situations qui les réclament. Et puis on peut faire aussi, mais c'est moins brillant et moins efficace, des injections intra-articulaires d'acide hyaluronique. Là encore, ça soulage certains patients. Ça n'est pas une révolution dans la prise en charge de ces malades. L'objectif, c'est finalement d'arriver à les soulager et d'arriver à leur faire mener une vie quotidienne presque normale, sans grande gêne ou avec le moins de gêne possible, jusqu'au moment où il est évident que l'heure chirurgicale a sonné. Alors, le point de vue du rhumatologue sur la chirurgie, par exemple, prothétique de la hanche et du genou, est un point de vue très positif. Je crois qu'il faut que nos malades puissent bénéficier assez rapidement de la mise en place de prothèses. Mais nous devons, dans cette situation, puisque nous, les rhumatologues, nous les préparons en quelque sorte à cette intervention chirurgicale qui se produira d'une manière ou d'une autre, et à un moment qui est le plus loin possible, mais pas trop loin, je vais y revenir, qu'est-ce que nous devons prendre en compte pour les préparer à cette intervention chirurgicale? D'abord, essayer de ne pas les faire opérer trop tôt. Nous avons du recul sur les prothèses, aussi bien de hanches que de genoux. Mais ces prothèses évoluent dans le temps, elles se perfectionnent, et en fait, pour le scientifique, on n'a jamais assez de recul pour dire à un patient, vous avez moins de 50 ans, on peut vous mettre une prothèse. On ne peut pas garantir à ce patient que cette prothèse tiendra 30 ans. Donc on essaie d'une certaine manière de repousser, si c'est possible, l'heure de l'intervention. D'un autre côté, il serait dommage de le repousser trop longtemps, ce moment de l'intervention. Parce que ce n'est pas passé 80 ans que l'on mène une vie physique sportive, active. Et donc, rendre à un patient sa hanche ou son genou à un moment où son cœur ne lui permettra peut-être plus d'avoir d'activité physique importante n'est pas forcément une bonne idée. D'un autre côté, opérer les sujets trop âgés n'est pas non plus une très bonne idée, dès lors qu'on n'est pas sûr que, passé un certain âge, le système cardio-respiratoire ou la fonction rénale permettront non seulement une bonne réadaptation, mais même tout simplement l'absence de complications. Mais il n'y a pas que le médicament pour attendre la chirurgie, il y a aussi tous les moyens non médicamenteux. La rééducation, la réadaptation, la poursuite d'une activité physique qui est indispensable à la bonne santé par ailleurs, mais aussi à la conservation de masse musculaire qui permettront ensuite des suites opératoires optimales.
Professeur Bouvenot, je pense aussi que les cures thermales peuvent apporter peut-être un soulagement ou alors contribuer à la musculation et à la non-perte de masse musculaire de personnes atteintes par cette maladie.
Je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur Pauly. Je crois qu'elles peuvent contribuer, mais vous allez voir, je pense même qu'elles contribuent surtout en réduisant, en tout cas on doit l'espérer, la consommation médicamenteuse au cours de l'année qui suit. Finalement, à quoi correspondent ces cures thermales? Elles ne sont pas autre chose que l'immersion, si j'ose dire, d'un patient dans un milieu très protégé où il va bénéficier d'une rééducation peut-être encore plus professionnelle que celle dont il bénéficie en cours d'année. Il va être dans une ambiance de détente non anxiogène. Et il va être en général dans l'eau chaude, qu'il s'agisse de kiné-balnéothérapie, d'utilisation de boue. Et tout ça va améliorer sa symptomatologie douloureuse, quelquefois améliorer la fonction, améliorer l'atrophicité musculaire. Et donc, j'en reviens à ce que je disais initialement concernant le thermalisme, pouvoir peut-être se passer davantage des médicaments qui ne sont, nous le savons, qu'un pis-aller et dont les effets indésirables, passés un certain âge et même avant, sont toujours inquiétants.
Professeur Bouvenot, en deux mots, la conclusion sur l'arthrose?
Oh, Monsieur Pauly, c'est une conclusion de bon sens, et c'est une conclusion de quelques décennies d'expérience aussi. En matière d'arthrose, et en attendant l'heure de la chirurgie, je parle des articulations portantes des membres inférieurs par exemple, il faut faire en sorte que le traitement ne soit pas plus dangereux que la maladie.
Professeur Bouvenot, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Monsieur Pauly.